Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. La comtesse de Castiglione, beauté insolente et photographe secrète de sa vie, 1837-1899. Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celle dont personne ne peut dire si elle était grande, petite, tendre, cruelle, mondaine ou recluse. De celle qui était probablement tout cela à la fois. De celle aussi qui fut pendant une toute petite année la plus belle et la plus jalousée, la favorite de l'empereur et l'ambassadrice clandestine du roi d'Italie. C'est ensuite très vite l'histoire d'une disgrâce et d'un moment de gloire devenu une source d'amertume perpétuelle. Mais surtout, c'est l'histoire d'une artiste secrète qui s'est fait photographier pendant 40 ans par le même photographe dans des mises en scène dont elle était l'auteur. Sur ces images qu'à l'époque personne n'a vues, on la voit en reine, en meurtrière, en noyée, en demi-mondaine, en pochetronne, en nonne, en convalescente, en veuve, en prostituée, en mélancolique, de dos, de face, reflétée dans des miroirs de poche ou des psychés, et même en morceaux, ses jambes, ses pieds, ses bras, ses yeux, son dos. Mais on la voit aussi vieillir, perdre ses joues d'adolescente, s'épanouir, mûrir, s'épaissir, et soudain décrépir et perdre la tête. Virginia Oldoini Verazis, comtesse de Castiglione, a fait immortaliser ses triomphes comme ses échecs et finalement sa mort à l'œuvre. Un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Lionel Quentin.
Je ne le retrouve pas. Non, je cherchais cette formule
Justesse.
Qui m'avait frappée. Ben voilà, moi-même par elle contre moi, c'était ça.
Contre di me.
Comment est-ce qu'on peut être aussi persuadé de soi? Comment est-ce qu'on peut être si bien dans son corps? Bon, voilà, il y a cette énigme.
Justesse, t'allais contre di me.
Elle chuchote, c'est vrai, elle a des chuchotements, il y a des choses quand elle va toute seule là dans l'atelier, moi je trouve ça inouï.
Une vie secrète.
Ouais, une vie secrète. Et je trouve qu'il y a toujours beaucoup, le théâtre, on a envie de frapper les trois coups à chaque fois qu'elle apparaît.
La comtesse de Castiglione, beauté insolente et photographe secrète de sa vie. 1837-1899.
Par rapport à ce que les gens ont dit, je crois qu'on n'a aucune idée de ce qu'était vraiment sa beauté, qu'elle était à couper le souffle et que tout le monde s'arrêtait. Enfin, la première fois qu'elle est apparue à Paris, en 1855, les hommes montaient sur les sièges pour pouvoir la voir. Enfin,
je les égale par ma naissance, je les surpasse par ma beauté, je les juge par mon esprit.
C'est les lettres de la Castiglione à Thiers, voilà. C'est ça. Il a récupéré les brouillons.
Elle gardait tout.
Paris dort, ne le réveillez pas. Oh, c'est beau.
Ah, oh, ça c'est superbe.
Ah, ça me fait penser au manuscrit d'Antonin Artaud. Mm. C'est un peu le même genre d'écriture,
oui,
très haché. Mm.
Donc là, c'est visiblement des lettres tardives, hein, quand elle perd un peu la tête.
Parce qu'elle écrit horizontalement, puis après elle réécrit par-dessus, voilà. Mais verticalement, en fait.
Et ça devient illisible, vraiment. À 13 septembre 1870, ah oui.
Elle arrive en 55 à Paris.
Marianne Nahon.
Et pourquoi est-ce qu'elle va toute seule chez Pierre-Louis Pierson, qui est un photographe pas inouï? C'est pas Nadar, c'est pas un des types comme ça dont on se dit voilà, j'approche le génie, pas du tout. Elle va le manipuler. Donc c'est quand même inouï. Vous imaginez cette femme très bien élevée quand même. Et elle va là dans cet atelier et elle prend les poses les plus invraisemblables. Par moments, elle est carrément abandonnée dans l'atelier. Je ne sais pas comment l'autre résiste.
On a fait près de 500 photographies ensemble. Je l'ai vu au moment de son triomphe, ensuite je l'ai revu après sa disgrâce pendant 8 ans, et puis de nouveau à la fin de sa vie quand elle avait tout perdu. Au départ, elle est venue parce que j'étais un des photographes de la famille impériale. Comme toutes les autres, elle voulait des portraits, cartes de visite, où on la voyait le visage de profil, respectable, presque modeste, même si elle était déjà fière de sa taille fine. Ses robes étaient terriblement convenables, boutonnées jusqu'en haut du cou, pas question de laisser voir un bout de son pied. Et puis un jour, elle a commencé à imaginer des mises en scène inspirées de tout ce qu'elle voyait au théâtre ou à l'opéra. Elle jouait et elle s'amusait terriblement.
Ça, c'est une pose classique. Elle est mélancolique. C'est une femme qui est dans la douleur. Et vous voyez là les V entrelacées, c'est Virginie Veracis. Donc le nom de son mari. Et derrière, c'est un paysage peint. Donc elle s'est mise devant. Je crois que c'était classique à l'époque. Mais simplement, ce qui est beau, d'abord, elle est belle. Elle est belle. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu aussi Gaspard David Friedrich, mais le tableau est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on voit le visage et non pas le personnage de dos.
Il y a toute une série qui s'appelle Passy, et c'est elle qui avait donné ce nom hein, à cette série de photos.
Nicole Albert.
Où on la voit littéralement comme une malade. Penchée sur un fauteuil ou même allongée, hein, comme une convalescente, comme une malade. On est en pleine période romantique. Je trouve que même c'est plus moderne que romantique, là, puisque elle ne pose pas comme une femme de son milieu et de son époque devrait poser.
Elle ne sourit jamais sur ces photos ?
Non, on ne la voit jamais sourire. Le sourire déplace les lignes, comme disait Baudelaire, donc elle ne sourit jamais.
On revient aux photos, si vous voulez.
Peut-être qu'on va revenir aux photos. Donc, sur cette photographie Alta.
Alta, ça veut dire grande.
Oui, voilà, tout à fait. Alors, on ne sait pas très bien si elle était très grande ou très petite. Certains disent qu'elle a, en effet, un port qui donne l'impression qu'elle est très grande. C'est aussi parce qu'elle a toujours des coiffures très élaborées qui peuvent atteindre 60 cm de haut. Donc, évidemment, elle paraît très grande. Sur cette photo, de toute façon, on se rend compte qu'elle est grimpée, et ça on ne devrait pas le voir, elle est grimpée sur un petit tabouret dont on aperçoit les pieds qui dépassent de sa robe. Donc en fait, on nous donne une photographie dans laquelle on nous montre, et ça on le voit très clairement, on nous montre les artifices en même temps, hein, l'étenture de l'atelier, le petit tabouret sur lequel elle est grimpée. Ce sont des photos qui ne sont pas du tout conventionnelles, hein, dans cette mesure.
Donc là, elle est de profil, elle a une robe très volumineuse aussi.
Elle a une robe très volumineuse qui dépasse le cadre de la photo. Il y a toute une série hein, de cette robe, hein, puisque ce sont à la fois des portraits de la Castiglione et des portraits de ses robes. Et donc, elle se montre de profil, comme si elle montait, sur une estrade ou à l'échafaud, on ne sait pas en fait très bien.
Elle a sa chevelure qui est très volumineuse, très lourde en chignon sur la nuque.
Alors là, sur cette photo, elle a une coiffure relativement sage. En effet, elle avait une chevelure extrêmement abondante. C'était des sortes d'énormes pâtisseries qu'elle poudrait hein, de toutes les couleurs ou sur laquelle elle appliquait de la brillantine ou bien les deux en même temps. Donc une partie était poudrée, une partie était lisse. Ou parfois même, elle porte les cheveux détachés, ce qui, à l'époque, évidemment, était jugé scandaleux.
Mon cher Nigra, voilà les portraits demandés. Je vous envoie la brune et la blonde, avec deux cheveux des mêmes couleurs, tant discutés par chacune des personnes qui, n'ayant jamais vu de l'une ou de l'autre manière, n'y croient pas. A uno scherzo di natura, une fantaisie de la nature. Elle m'a favorisée de telle sorte à pouvoir être tour à tour grande et petite, mais toujours moi. Voilà mon crime. Tout est vrai à moi, comme mon amitié.
Je la trouve en tout cas sur celle-ci, qui s'appelle Le Regard, je crois.
Nathalie Léger.
Le visage tourné vers nous et très, très mélancolique. Hein. On voit sa beauté, alors qu'on ne la voit pas sur toutes les photos. À vrai dire, on l'acclame, les contemporains l'encensent, cette beauté, mais pour nous, il faut reconnaître que quand on regarde toutes les images de la Castiglione, on ne comprend rien, on comprend mal en tout cas. hein, cette Vénus descendue de l'Olympe. Bon, le corps de la Castiglione ne correspond pas à nos canons de la beauté. Hein. Tout ça est un peu trop rond, un peu trop rapidement lourd, malgré sa grande jeunesse encore. Hein. Elle a une trentaine d'années.
Alors c'est quelqu'un qui, très jeune de toute façon, a été élevé dans ce culte de soi. Sa mère disait qu'elle avait conçu un chef-d'œuvre. Elle-même pensait être la plus belle création de Dieu depuis la naissance du monde. Donc très jeune, elle a fait l'admiration de tous. Elle était très courtisée, adolescente déjà. Et rien jamais n'est venu la contrarier dans ce domaine. Elle fait partie donc de l'aristocratie, même si c'est une aristocratie de... une petite aristocratie, mais elle a été élevée pour pouvoir approcher les grands de ce monde. Mais je pense que ce qui était plus important, c'est qu'en effet, elle est comtesse par son mariage. Son père était marquis, c'était un diplomate. Sa mère était une femme très mondaine, donc elle sait très bien comment tout cela fonctionne. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout prude, qui n'est pas du tout bigote. Il y a une grande liberté chez elle, et très rapidement, elle va tromper son mari. Donc en fait, quand Cavour lui fait comprendre et qu'il lui dit « réussissez ma cousine par tous les moyens qu'il faut, mais réussissez », elle comprend très bien qu'il faudra sans doute qu'elle paye de sa personne. Et visiblement, ça ne la dérange pas du tout. Il n'aurait pas, peut-être pas pu demander ça à n'importe quel aristocrate.
Mardi 26 décembre 1854. Les matins, je me suis levée à 9h, entendu la messe, et puis nous sommes partis en calèche pour Asti, où nous avons déjeuné à l'hôtel. Dîner avec François. Après, j'ai pleuré dans mon cabinet où j'ai passé la soirée avec François. Je me suis couchée à 11h. Vendredi 29. Venue Doria. Samedi 30. Les matins, François est allé faire les visites de cour. Il est revenu avec la robe fine de soie pour moi, que je n'ai pas voulu. Et il s'est mis de mauvaise humeur. J'étais fâchée. Je n'ai rien mangé à dîner. Après, j'ai pleuré toute la soirée. Nous avons fait la paix, il est sorti, j'ai écrit à Cavour et je me suis couchée. Je n'ai point dormi. Dimanche 31, dernier jour de l'année. Le matin, j'étais à la messe et je me suis fâchée d'être là. Après, je me suis habillée avec la robe de moire bleue et la casaque noire. Et j'ai déjeuné avec François. J'ai pleuré, écrit et je suis allée au lit à 9h. François est venu me voir à 11h et puis... est allée souper chez Clément. J'ai commencé seule l'année. 7 juillet. J'ai dîné avec la vie mercanti seule. François était chez Sigale. Elle est partie à 7h. Quand Doria est venue dans le salon, causer dans l'obscurité. BX, BX, 4 fois. À 3h, Doria, il est resté jusqu'à 5h. BX, BX. Marcello est venu dans ma chambre. Jusqu'à 4h, causé sur le canapé et embrassé. Rien de plus. Lundi 13 février, dîner. Après, dans mon boudoir, François a dit qu'il voulait se séparer. Puis, il est revenu faire la paix.
De toute façon, à l'époque, pour elle, la vie est toute tracée, elle se marie, il faudra qu'elle ait des enfants, elle n'en aura d'ailleurs qu'un, hein, Georges, et elle va s'enterrer dans un château de province avec son mari, qui est un homme très amoureux, mais sans doute aussi très ennuyeux. Et je pense que cet ennui qu'elle ressent très très jeune, puisque en effet, dès le moment où elle va se marier, et même avant, elle commence à tenir un journal, elle commence à tenir un journal quand elle est adolescente, enfin elle se marie à 17 ans, ce qui est de toute façon très jeune, et elle noircit des pages entières. Donc en fait, au départ, le journal remplit un petit peu la fonction que les photographies rempliront par la suite, c'est-à-dire c'est un moyen d'introspection, un moyen d'analyser et de comprendre son existence. Et en effet, ce journal laisse très rapidement apparaître un comportement très autoritaire, certes, mais aussi un tempérament très mélancolique, très dépressif, je pense parce que, en fait, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les contraintes de la société dans laquelle elle vit, de son temps, et qu'en tant que femme, elle se rend bien compte qu'elle n'a pas vraiment les coudées franches.
« 1855.
Vendredi 14, les matins, je me suis levée à 8h, travaillé, écrit, jusqu'à midi. Tant de choses à faire. Après, venu Cavour. Samedi 15, venu Persano. Demander la réponse. J'étais sans dessus-dessous. Dîner. Puis, venu Persano, qui allait prendre la réponse de roi. J'ai écrit 17 lettres. Lundi 17, pendant que j'étais en cheveux, Persano est venu me dire que le roi attendait dehors. Je me suis habillée en velours noir, peignée, et suis allée dans le salon. Persano a pris la clé du jardin. Par où il est venu dans les salons. À 11h, il est parti. Je l'ai accompagné jusqu'au jardin, où il m'a F. Je suis venue dans les toilettes arranger les choses, fini la caisse avec Antonio, puis tout fini à minuit. Je me suis couchée.
Elle connaissait déjà le roi Victor Emmanuel, qu'elle avait rencontré à la cour de Turin, hein, au tout début de son mariage, où on assiste, en fait, c'est un petit peu la répétition de ce qu'il va y avoir à Paris, c'est-à-dire que ses apparitions publiques sont très remarquées, que déjà les gens se poussent du coude pour l'apercevoir, elle fait la une des journaux le lendemain, tout le monde vante sa beauté. Évidemment, le roi Victor Emmanuel lui-même n'est pas insensible, hein, dans ce domaine, il ressemble beaucoup à son homologue français. Et au moment où il va y avoir des tractations pour en vue du congrès de Paris, hein, où doit être évoquée l'unité de l'Italie, l'indépendance de l'Italie, Cavour, dont il est le lointain cousin, a l'idée d'utiliser la comtesse de Castiglione en se disant que Napoléon III est célèbre pour son amour des femmes, c'est un Don Juan, et il ne peut pas être insensible, c'est une sorte de, voilà, de valeur ajoutée, insensible à une Italienne qui va plaider sans doute dans l'intimité la cause de l'unité italienne. Donc elle va partir en Italie, en France, pardon, et son arrivée a été préparée déjà de longue date, plusieurs mois avant, il va y avoir cette Italienne qui arrive. Et en effet, quand elle arrive à Paris, elle n'est pas présentée directement à l'empereur, puisqu'elle est invitée à une soirée chez la princesse Mathilde, mais elle est déjà dans le premier cercle, et très rapidement, évidemment, elle va se faire remarquer par l'empereur. Mais rien n'était gagné de ce point de vue-là. Il aurait très bien pu ne pas la trouver à son goût. D'ailleurs, quand il la rencontre la première fois, après avoir échangé quelques mots avec elle, il se tourne vers quelqu'un et dit « Elle est en effet très belle, mais je ne crois pas qu'elle ait beaucoup d'esprit. » Mais en quelque sorte, elle fourbit ses armes et très rapidement, elle va s'imposer. Et Napoléon III, évidemment, va très vite se rendre compte qu'elle est très spirituelle, qu'elle a beaucoup d'esprit et également qu'elle est très autoritaire. C'est quelqu'un qui lui fait des scènes de ménage. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'il recherche dans une relation adultère.
Lundi 25 février, nous entrons en scène. Si la chose n'est pas amusante, elle est tout de même curieuse. Entre-temps, les dîners officiels ont commencé. Et si ce n'est pas le cas de nos intelligences, ce sont nos estomacs qui sont mis à dure épreuve. Je vous avertis que j'ai engagé dans la carrière la très belle comtesse de... Vous voyez de qui je veux parler. Et je l'ai invitée à coqueter et à séduire, si le cas se présentait, l'empereur. Elle a commencé discrètement sa mission au concert des Tuileries d'hier. Adieu. Comte Camillo de Cavour, chef du gouvernement du royaume de Sardaigne, 1856.
Elle crée l'événement puisque elle s'habille de façon extrêmement originale. Donc il faut savoir que de toute façon, à l'époque, les bals étaient très souvent costumés, mais chacun dans son coin préparait son costume et c'était à qui allait surprendre l'assistance. Alors d'une part, elle est extrêmement originale de ce point de vue-là, à la fois dans ses costumes qui sont conçus par elle, fabriqués un peu à la va-vite, avec des tissus qui ne sont pas toujours très précieux, mais qui font beaucoup d'effets. Et d'ailleurs, Montesquieu, qui a pu voir ou tenir en main certaines de ses reliques, trouvait que les tissus étaient de mauvaise qualité, les bijoux étaient en pacotille, mais ça n'est pas grave, il faut qu'elle fasse de l'effet l'espace d'une soirée, donc elle apporte un grand grand soin à ses costumes, elle met des plumes, elle met des perles, voilà, c'est
des fleurs fraîches
également. Donc elle va par exemple, elle a une soirée dans un costume absolument incroyable, tout le monde va en parler en disant qu'elle était très belle, magnifique, et puis le lendemain, elle va arriver dans une robe toute simple, sans un bijou, les cheveux tirés, et elle est encore plus belle. Donc en fait, elle a l'art de toujours surprendre, et à partir du moment où elle arrive, c'est vrai que tout le monde se détourne pour l'admirer elle, pour l'entourer, pour se moquer aussi, évidemment.
L'empereur est venu me parler, puis tout le monde regardait et sont venus me voir. Je riais. Samedi 2 février 1856, à 9h, je suis allée au petit bal des Tuileries, où je suis restée jusqu'à 2h, causée avec l'empereur qui m'a donné à souper des oranges. Mardi 5 février, je suis allée au bal, costumée de Monsieur Léon, où j'ai parlé avec l'empereur, masqué. Jeudi 21 février, peignée avec la poudre, perles, plumes, dîner, causer avec l'empereur.
Alors, je ne sais pas si dans celui-là, il y a la... Alors, il y a quelques costumes qui ont marqué, évidemment, son passage à la cour. Le fameux costume de la dame de cœur, où elle porte cette tenue qui est d'un symbolisme un peu rudimentaire. Une robe constellée de cœurs, dont l'un à l'endroit du sexe, et donc cette phrase très très célèbre de l'impératrice qui n'a pas la langue dans sa poche et qui est également très, très spirituelle et qui s'approche d'elle et qui lui dit « le cœur est un peu bas ».
Donc on voit une robe extrêmement décolletée.
Très décolletée. Apparemment, on voyait beaucoup, on voyait trop. Alors en effet, cette robe est en effet assez scandaleuse dans la mesure où elle est très décolletée, elle a les bras nus. Les cœurs sont évidemment une sorte de déclaration à tout le monde qu'elle est la favorite de l'empereur. Elle a les cheveux dénoués.
Oui, qui lui vont pratiquement jusqu'à la taille.
Qui lui vont jusqu'à la taille. Alors, c'est une photo, comme je vous disais, qui a été prise quelques temps après son triomphe. Elle a des petites sandales, on voit ses chevilles. Mais on voit vraiment sur cette photographie, en effet, qu'elle a une plastique absolument parfaite, une taille bien prise, des hanches rondes, une très belle poitrine, un teint diaphane, une magnifique chevelure. Enfin bon, elle était absolument parfaite, apparemment.
Paris possède en ce moment un lion et une lionne. Le lion, c'est le comte Alexis Orloff. La lionne, c'est une jeune beauté italienne. Il a 71 ans, elle en a 18. Il vient du nord, elle arrive du sud. Il apporte la paix, elle met le trouble parmi nos beautés locales, nos élégantes. On les cherche avec ardeur dans les salons, à l'opéra, partout où ils pourraient être. Ah, quelle recette ferait même la Sedia di Firenze si on pouvait les réunir dans une même loge et le faire savoir. Quant à la jeune étrangère, on assure que sa présence désespère les habitués de certains salons. L'autre soir, nous disait une hospitalière et charmante maîtresse de maison, lorsqu'elle entra, ces dames restèrent consternées. Jules Lecomte, L'indépendance belge, 1856.
Tout le monde en parle. Il y a beaucoup, en effet, à l'époque, de mémoires, de femmes de la cour, de personnes...
Dans les correspondances.
Ou dans les correspondances. Il y a ces dames qui sont évidemment beaucoup plus dures, qui pour certaines reconnaissent qu'elle est très belle, mais qui souvent disent qu'elle ne voit personne, qu'elle ne parle à personne, qu'elle arrive toujours en retard pour être sûre d'être remarquée, qu'elle ne parle qu'avec l'empereur, les autres n'existent pas. Si elle était charmante, elle serait parfaite, mais elle est tellement odieuse que... Ça la rend désagréable, ça gâte sa beauté. Ou bien certaines personnes vont dire qu'en fait, c'était une intrigante. Alors en fait, on sent en fait dans ces commentaires extrêmement fielleux, évidemment, une grande jalousie et peu d'objectivité.
Charles-Éloi Vial.
C'est elle qu'on va laisser danser sur la piste de danse. C'est à elle qu'on va faire place au dîner autour de l'empereur parce que tout le monde n'est pas invité au dîner. Et vraiment, c'est quelque chose de très particulier de voir qu'elle fait partie de ces quelques happy few que ensuite les journaux vont décrire. On va décrire les robes en détail. On va les retrouver ensuite souvent dans des gravures. Donc c'est une personne très importante. Mais elle a un éclat qui dure assez peu de temps puisque c'est les années 1856-1857. Elle est invitée à des bals. Puis ensuite, elle est invitée à une série à Compiègne. Alors, Alors les séries, c'est ces séjours de la cour impériale. C'est Eugénie qui fait la liste des invités elle-même. Et la comtesse est invitée passer une semaine avec Napoléon III à Compiègne. Elle est dans une série mondaine, elle n'est pas dans une série élégante où on invitait les personnalités les plus élégantes. Et elle va suivre la vie de la cour. Donc il y a des représentations théâtrales, il va y avoir des tableaux vivants, il va y avoir des séances de jeux de billard, des danses, des dîners, des chasses et une visite au château de Pierrefonds. Et c'est là que elle tombe en visite. Voilà, patatras exactement pendant cette visite du château qui est alors en pleine restauration par Viollet-le-Duc, et elle se casse le poignet et personne n'est là pour l'aider parce qu'il y a cette faction à la cour qui est un peu plus morale, qui voudrait que l'empereur ait une vie exemplaire, qu'il n'ait pas des dizaines de maîtresses, et personne ne se précipite pour l'aider, et tout le monde est secrètement très content que elle se soit cassée le poignet.
La liberté que Sa Majesté a prise récemment avec la Castiglione font scandale dans tout Paris. À la cour même, on parle d'une fête champêtre donnée l'autre nuit à Villeneuve-l'Étang et à laquelle uniquement de rares privilégiés étaient invités. Dans un petit bateau à rames, l'empereur s'est embarqué seul avec la dite dame pour des régions obscures où ils ont ensemble passé toute la soirée. La pauvre impératrice, qui faisait peine à voir, s'est mise à danser pour apaiser des nerfs surexcités. Comme elle est encore très faible, elle a fait une chute et s'est évanouie. Ce fut une véritable orgie. Les hommes avaient gardé pour danser leur chapeau sur la tête. Tout cela est bien triste. Politiquement parlant, de telles choses font à l'empereur un mal infini. Lord Colley, 1856.
Alors, elle a quelque chose quand même contre elle. Je pense qu'elle est tellement consciente d'être belle qu'elle peut être odieuse. Voilà.
Je crois que la photo s'appelle L'assassinat ou La vengeance, selon les tirages. J'avais été tout à fait saisie par cette femme qui surgit sur une scène de théâtre. Hein, tous les accessoires sont là pour nous montrer que c'est une scène presque de pacotille. Et elle surgit en tenant ce petit couteau à la main. Elle incarne une héroïne tragique. C'est quand même très bien fait. Mais ce qui frappe d'emblée, c'est la cruauté de ce visage. C'est cette intention tellement puissante, déterminée qu'on sent et qui vient contredire le jeu et l'apparente théâtralité de la photographie. C'est ça qui m'a frappée et qui m'a aussitôt donné envie, sans rien savoir de cette femme, aussitôt envie d'écrire, sinon sur elle, en tout cas autour d'elle.
Françoise Elbrun.
Les premières photographies qu'a fait d'elle sans doute Pierson, on voit qu'elle est très belle, statuesque, mais il n'y a pas de mise en idée, si vous voulez. Il y a par exemple une photographie très étonnante qui s'appelle La frayeur, où elle est dans un mouvement, et alors elle retouchera cette photographie pour montrer une femme qui fuit un bal en feu. Mais c'est déjà un espèce de sens, si vous voulez, du théâtre. Et en même temps, elle était complètement fantasque, enfin. Cette idée de se faire photographier Mais je crois que la photographie ne l'intéressait pas, en fait. Ce qui l'intéressait, c'est le rapport à elle-même, à sa beauté extraordinaire, dont tous les hommes et même les femmes lui parlaient. Madame de Metternich, qui s'était mise à la détester parce qu'elle était hautaine et désagréable, trouvait qu'elle était la beauté de Vénus descendue du ciel.
Et elle aimait aussi ce qu'il y avait chez Pierson et qui était formidable, qui était qu'on faisait des retouches à la couleur. Pas des retouches, je ne sais plus comment ça s'appelait, les photos peintes.
On peignait sur les photos.
Chad était un type d'une méticulosité extraordinaire. Et la merveilleuse photographie, le merveilleux portrait de la comtesse qui s'appelle la Dame de Cœur, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est vraiment d'une grande beauté. Et ça, évidemment, ça la séduisait. Je pense qu'elle assistait à tout. Ça donnait la couleur du teint, des cheveux, des yeux. Donc on la voyait telle qu'elle se voyait.
Pour la photographie, la frayeur. Les débris d'un bal où les feux a pris. Un lustre par terre, tout le monde en fuite, robe des satins blancs, brillantes, raisins noirs et rouges, avec feuilles vertes, foncées et rouges, ôtés cheveux, boule à tempe, remplacés par vigne, même mouvement fini, à droite, en haut, couvrir avec les fonds tous les côtés droits de la coiffure.
Alors, très vite, finalement, elle ne sera plus la maîtresse de l'empereur, aussi en partie parce qu'un attentat, une tentative d'attentat aura lieu justement devant chez elle, alors que l'empereur sort de chez elle, ou voilà. Qu'il y arrive, je ne sais plus.
Voilà, il sort de chez elle, de l'hôtel particulier qu'elle occupe, avenue Montaigne. Il y a pourtant une petite, justement, elle l'a choisi parce qu'il y avait une petite porte dérobée qui lui permettait d'entrer et sortir, donc il vient la retrouver comme il le fait très souvent. Et puis, en sortant de chez elle, il est attaqué par deux terroristes italiens. On va évidemment, elle étant italienne, l'accuser d'être complice de l'attentat. Et l'impératrice est trop contente de faire en sorte qu'elle soit, sinon arrêtée, reconduite, soi-disant, à la frontière. Mais on apprendra assez rapidement qu'elle a été éclipsée, puisqu'elle va revenir en fait assez rapidement à Paris. Mais il faudra évidemment qu'elle se refasse une sorte de virginité auprès de la cour, et à ce moment-là, elle ne sera plus dans le premier cercle, sauf plus tard, dans les années 60. Là, on sent que, de toute façon, l'empereur commençait à se détacher d'elle, il l'avait vu sur d'autres femmes, et donc cet attentat tombe à pic pour lui. On l'éloigne, elle va revenir, mais elle ne sera plus évidemment au cœur de la cour.
À peine ai-je traversé la vie et mon rôle est déjà fini.
Le mari veut retourner en Italie. De toute façon, il a énormément entamé son capital. Le mari a dû vendre des terres, des propriétés, hypothéquer une partie de ses maisons pour pouvoir assurer le train de vie de son épouse, qui dépense sans compter, et lui pense que retourner en Italie serait très sage. Évidemment, pour elle, il n'en est pas question. Le mari va donc repartir en Italie. Elle conserve avec elle son fils, même si elle s'en occupe assez mal. Et le mari retourne en Italie pratiquement ruiné. Ils se reverront très épisodiquement, lui voulant toujours la récupérer, essayant de lui demander de revenir, elle évidemment refusant. Et à partir du moment où il va mourir, elle va à ce moment-là endosser un autre rôle, celui de la veuve. Évidemment, ce qu'elle fait, elle va s'habiller en veuve et elle va aller se faire photographier chez Pierson, déguisée presque en veuve.
Premièrement, refus de la part de la comtesse de se soumettre au devoir naturel du mariage sous prétexte qu'elle ne veut plus être grosse une deuxième fois, ce qui oblige le mari à des scènes ridicules et ennuyeuses pour obtenir ce qui lui est légitimement dû. Deuxièmement, manque d'obéissance complète envers son mari que la comtesse traite sans cesse avec la plus grande dureté, ayant toujours l'air, même devant les étrangers, de le regarder comme un imbécile qui n'est bon à rien. Troisièmement, manque complet de religion, puisque depuis plus d'un an, la comtesse n'a pratiqué aucune pratique de religion, et que le dimanche, ce n'est pas sans peine que le mari obtient qu'elle aille à l'église pour la seule messe. Quatrièmement, conduite souvent blâmable, surtout dans les apparences, la comtesse affichant sans cesse avec tel ou tel autre une intimité qui, quoique innocente peut-être dans le fond, lui fait tort aux yeux du monde, ce qui ne convient pas au mari. Cinquièmement, peu d'affection pour son fils.
Elle a été quand même très malheureuse. Elle a rendu beaucoup de gens très malheureux. Son mari en premier, le pauvre, alors là, il était laminé. Il faut dire qu'il n'avait pas une grande personnalité. C'était un beau garçon, il avait un joli nom, il avait des biens. En 2 ans, il ratissait. C'est incroyable!
Oui, il pensait peut-être avoir trouvé une jeune fille qui pourrait avoir une belle jeune fille à son bras.
Ben, il pensait avoir la plus belle femme d'Europe. Hein. C'était pas innocent non plus dans ses choix. Voilà. Lui, il a vraiment voulu tout d'un coup apparaître comme l'homme le plus envié parce qu'il avait la plus jolie femme, la plus charmante, la plus... Voilà. C'est une femme libre. À une époque où ça ne se faisait pas.
Elle commence à avoir une vie qui est... Alors, elle reste une aristocrate, mais une vie qui est toujours un petit peu à cheval entre l'aristocratie et la courtisanerie. elle a de l'argent, mais elle en a tellement besoin que, évidemment, si elle peut avoir les faveurs de personnes qui vont dépenser des sommes très importantes, elle n'hésitera pas. Donc, c'est quelqu'un qui va vivre une vie, une sorte de vie un peu bohème à l'intérieur d'un milieu qui est quand même un milieu extrêmement protégé. Et à ce moment-là, elle comprend qu'une étape de sa vie s'achève. Et en effet, le restant de sa vie va être une façon de revivre ou de se remémorer hein, cette période, et notamment à travers la photographie qui va lui permettre de continuer à vivre dans un monde qui est complètement fantasmé.
Parfois, elle arrivait avec des mains remplies de vieilles robes. Elle exigeait des marchepieds, elle sortait des ombrelles ou des éventails. Il y avait un programme précis. La comtesse voulait fabriquer des preuves de ses triomphes passés. Des preuves qu'elle avait été brièvement la favorite. Un jour, elle est venue avec une robe de marquise qui avait fait sensation lors d'un bal en 1857. Et 6 ans après, elle voulait forger une trace de ce succès. Sa crinoline blanche et bleue laissait voir ses épaules. Dans sa coiffure poudrée, elle avait un bouquet défraîchi. Elle s'appuyait sur une chaise. C'était à la fois innocent et provocant. On a fait plusieurs versions, assise ou debout. Les photographies, c'était juste une étape. Ensuite, elle laissait des instructions pour Akhil Inchad qui peignait les photographies. Mais de toute façon, elle gardait toutes les images.
Contrairement à une courtisane, elle a pu soutirer de l'argent notamment au baron Lafitte ou même au Rothschild. Hein. Mais le baron Lafitte était un ami très proche, un homme très épris d'elle, qui lui a prêté des sommes absolument astronomiques et elle n'a jamais cédé. Hein.
Et en même temps, on voit aussi, si on reste sur ces questions d'argent, Nicole Albert, des lettres qu'elle échange avec Poniatowski, avec monsieur et madame d'ailleurs, assez étranges, où on sent qu'ils sont en train de mettre en place de véritables arnaques pour soutirer de l'argent à des banquiers, à des riches notables, en disant, écoute, viens en blonde ou viens en brune, fais ce qu'il faut, mais je suis sûre que tu vas y arriver, que tu vas réussir à obtenir de l'argent, c'est une affaire qui va marcher. Elle est au cœur de véritables arnaques, en fait.
Oui, en effet, elle sert un petit peu d'appât. Visiblement, elle s'y prête. Je pense qu'il y a un côté un peu canaille qu'elle ne dédaigne pas. Et d'ailleurs, ce qu'on voit sur certaines photographies, hein, où elle pose en femme de mauvaise vie, dans des cafés, devant une absinthe. Donc, en fait, elle aime beaucoup jouer avec les lignes entre les différents milieux. C'est quelqu'un, par exemple, qui vit beaucoup au café, qui vit beaucoup au restaurant, qui y va seule, ce qu'une femme ne faisait pas. Elle a un cabinet particulier chez voisin, qui est un endroit où elle prenait ses repas. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, réussit à préserver une sorte d'espace de liberté, parce que, de toute façon, elle sait qu'elle n'est pas conforme. Donc, elle en profite.
Eh bien, la Castiglione m'a toujours fait rêver et on avait acquis quelques photographies d'elle vieille, mais aussi une photographie étonnante qui était un tirage tardif, mais qui était quand même... Elle était assise sur une table et elle relevait sa robe et montrait ses jambes à partir de ses genoux, ce qui ne se faisait pas tellement à l'époque. C'était très audacieux. Et on sent que c'est elle qui dirige, parce qu'on n'imagine pas Pierson la photographiant assise sur une table et le montrant ses jambes ou dans les différentes positions qu'elle a eues. Elle a eu aussi cette idée de se photographier derrière en mettant un cadre devant son œil. Enfin, elle avait des inventions de ce genre. Et aussi, elle a fait de ses photographies le souvenir de ses apparitions. Ce sont donc déjà des sortes de... une sorte de happening, c'est le mot français.
Des performances.
Des performances, voilà.
C'est aussi ça qu'on voit, une sociologie de la photographie, un espace. Cet espace qui a été, au-delà de la sociologie, là, la chambre noire, même si elle est claire, comme dans cette image, la chambre noire de la Castiglione, hein, l'espace de projection de ces fantasmes. Alors ici,
On voit cette très belle image, je crois qu'elle s'appelle En sortant de l'opéra, ou je me trompe peut-être.
Ou bal de l'opéra, non ?
Voilà, ah ben, voilà.
Moi, je crois que c'est ça.
Le bal de l'opéra. La fiction est bien sûr jusque dans les titres, donc c'est important qu'il soit précis. Là, c'est une image quasi abstraite. Hein. On est face à une sorte de sculpture de tissu et de chair. Il y a l'énorme manteau, sans doute dans un taffetas de soie blanc ou ivoire, bordé d'hermine, de fourrure blanche. Et de ce manteau qui est très bas sur l'épaule et même qui dégage tout le haut du dos, voilà, on a le taffetas qui se prolonge dans la chair. La tête, là aussi, c'est une image de dos, devant un miroir, un autre miroir, une autre image. La tête disparaît totalement. Cette femme se regarde dans un miroir. Elle en est très proche. C'est comme si elle était en révérence. Enfin, elle est saisie par le photographe. Tout ça est totalement fabriqué, hein, parce que les poses sont longues. Donc rien n'est dû au hasard. Et elle est devant sa propre image. Elle est devant le miroir comme en adoration, comme en révérence. Mais tout ça, à la fois par le talent de Pierson, hein, qui est un photographe dont la réputation, je dirais, c'est un photographe de très bonne aloi. Et pourtant, je crois qu'à eux deux, ils ont réussi quand même quelques chefs-d'œuvre.
Et puis là, on pourrait penser qu'elle se jette dans le miroir. On dirait comme Narcisse, à force de se regarder, de se contempler, elle va se noyer.
Oui, tout à fait. Elle est dans cet espace qu'elle venait rechercher très régulièrement, et en particulier au moment où ça allait pas fort, on va dire, hein, dans sa vie. Elle est dans cet espace totalement préservé, inventé. Je crois que peu ont créé avec cet espace photographique, ont su créer, ce lieu de cauchemar et de résurrection. Il y a vraiment, on sent dans chacune des photos ce double espace de terreur et de réappropriation de soi.
Il faut savoir qu'à l'époque de la Castiglione, ses contemporains, les gens qui ne la côtoyaient pas intimement, ignoraient qu'elle avait cette vie parallèle chez un photographe, puisque ses photos ne circulaient pas à l'extérieur de son cercle personnel et intime. Donc elle les gardait pour elle, elle les donnait à ses amis, elle les donnait à ses amants. Et quand je dis donner, en fait, je devrais plutôt dire elle les prêtait, parce que quand elle se brouillait avec quelqu'un, par exemple, comme on réclame ses lettres, ce qu'elle faisait d'ailleurs aussi, elle réclamait les photos qu'elle avait données.
Aucune femme n'a fait ce qu'elle a fait. Donc pourquoi elle ? Parce qu'elle avait, je pense, un besoin en elle d'être une artiste. Et elle a trouvé ce médium-là, et elle a trouvé cette façon de faire ça, seule, dans l'atelier, avec ce Pierson, qui est un type pas génial, génial. Et à mon avis, j'imagine les séances de pose, elle doit lui dire « mais t'es comme ça, non pas comme ça ». Elle devait être à la fois nerveuse et en même temps complètement séductrice, abandonnée et sur le qui-vive. Enfin, c'est une étrange personne. Hein.
Pendant une période entre 1861 et 1867, on a fait énormément de séances dans l'atelier. La comtesse était de plus en plus libre, le visage masqué, elle jouait la demi-mondaine et ça durait des heures. Elle détaillait son corps et faisait photographier ses yeux derrière un loup, un passe-partout, un miroir de poche, mais aussi son dos, ses épaules, ses mains et puis parfois même ses pieds ou ses jambes nues. Elle relevait alors lentement du bout des doigts le bas de sa robe et sur l'image, on ne devait pas voir son visage. Et puis une fois, elle s'est étendue sur le sofa, en cheveux, comme une fille, et sous la fine étoffe du couvre-lit, je crois bien qu'elle était nue. Les yeux ouverts, le regard lourd, je n'osais plus respirer.
Le geste de la main dans l'entrebâillement de la robe qui vient toucher le sein de manière très suggestive. Et le regard, on le sait, je pense que quiconque regarde ces images le déduit, le regard s'adresse à l'homme qui est derrière l'appareil. Hein. La Castiglione n'est pas seule sur ces images. Et en cela, ce ne sont pas simplement des autoportraits.
Marie Robert.
Très tôt, en fait, avec l'avènement de la photographie, on figure des corps nus. Et très tôt, on assimile en fait les personnes, les modèles qui posent pour la photographie obscène ou pornographique, on les assimile à des prostituées, très clairement. Et donc la comtesse de Castiglione, elle aussi, elle s'amuse et participe de cette création collective et se figure justement tantôt en demi-mondaine dans un cabaret des boulevards, tantôt en femme du monde qui quitte un bal masqué précipitamment en portant un loup, et c'est la photographie qui est justement présentée dans l'exposition, tantôt en geisha, donc très souvent en fait en femme qui fournit des prestations sexuelles en échange d'une rémunération.
Il y a une anecdote racontée par quelqu'un de très méchant du Second Empire, comment s'appelle-t-il
Mais c'était plusieurs à être méchants.
Oui, Horace de Vieille-Castel. Voilà, il raconte qu'elle se serait montrée nue un jour pour narguer les hommes et en fait, il a dit, peu, elle sentait la sueur. Mais est-ce que c'est vrai? Pas forcément. C'était quelqu'un à la fois qu'on encensait et qu'on traitait très mal.
On la voit en nonne.
Donc là, c'est pour le tableau vivant, le célèbre tableau vivant en ermite de Passy.
Oui, qui fera scandale.
Qui fera scandale, puisque là, c'est quand elle revient à Paris, elle est invitée à se produire à une fête de charité dans l'hôtel de la Madame de Meyendorf. Et elle décide donc de concevoir elle-même son apparition. On ne sait pas du tout comment elle va se présenter. Elle commande simplement une grotte. Et puis, le rideau se lève sur la Castiglione, muette, couverte de la tête aux pieds, hein, habillée en religieuse. Juste quelques instants, évidemment, l'assistance est très, très mécontente de cette apparition, puisqu'on s'imaginait qu'elle allait apparaître dans une tenue beaucoup plus affriolante, voire même se montrer nue.
Mais c'est là qu'on voit qu'elle est maligne.
Elle est très maligne. Évidemment, plus tard, ce sera différent, puisqu'elle sera très retirée, mais elle aura toujours cette façon de ménager le mystère. Quand elle habite Place Vendôme, il y a ces multiples portes, ces portes avec énormément de serrures. Donc, en fait, arriver jusqu'à elle, c'est toujours une épreuve. Il faut passer il y a des mots de passe, il y a des signes de reconnaissance. Donc, en fait, elle est restée, elle est toujours en mission diplomatique, hein, comme à l'époque où elle était envoyée à Paris, comme plus tard, quand Thiers fait appel à elle autour de 1870, lui remet un langage codé, langage chiffré. Donc, en fait, elle a toujours aimé ça. Et même dans son journal intime, étant jeune, elle écrivait en boutroufédon, c'est-à-dire qu'elle écrivait de droite à gauche. Hein, c'est une écriture codée. Donc, en fait, elle a toujours aimé les codes. Elle avait sa petite grammaire de codes dans sa correspondance, dans sa façon de se comporter. Donc, en fait, voir la Castiglione, c'est jamais quelque chose d'anodin.
Elle crie aux Tuileries, à ses cochers de féerie, et dont les chevaux perclus volent au seuil qui n'est plus. L'empereur est mort, madame. Son fils, la tombe l'entame. Leurs palais, ils sont rasés. Et les miroirs sont brisés. Robert de Montesquieu, Survivance, 1892.
Elle revient donc après 1870, tous les grands lieux de sa gloire ont disparu, les Tuileries ont été détruites. Et d'ailleurs, elle récupère durant ses promenades nocturnes, elle va sur les décombres qui sont restés comme ça fumants pendant pas mal de temps. Elle va récupérer des morceaux de construction, des éléments de marbre qu'elle garde. Et à l'avant de 1901, il y avait toute une série de ce qui était appelé des presse-papiers, qui en réalité étaient des pierres qu'elle avait récupérées dans les ruines des Tuileries. Donc quand elle revient à Paris, tous les lieux de sa gloire ont disparu. C'est une autre époque. Maintenant, elle a plus de 30 ans, 35, 40 ans.
Oui, elle est très jeune. On a l'impression là, qu'on a raconté une vie de 70 ans, mais en fait, tout va très vite.
Tout va très vite, et pour elle, elle se pense très vieille. Elle commence à beaucoup moins sortir, et là, la presse se fait très méchante parce que les gens guettent les premiers signes de l'âge. Je pense qu'il y a une volonté un peu méchante de constater que voilà, son temps est passé et qu'elle entre dans une période de sa vie qu'on pourrait qualifier de vieillesse, même si c'est une vieillesse extrêmement précoce.
Une ruine peut être imposante, grandiose, pourvu que ce ne soit pas une ruine de femme à la mode. Une sorte de spectre lamentable se montre depuis quelques jours aux Champs-Élysées en pleine lumière. Hélas. Les soieries sont fanées, les dentelles déchirées. C'est une femme jeune encore, drapée dans des haillons à la fois sordides et splendides. C'est la femme au voile d'il y a 10 ans. Elle se leva, dit-on, pour un souverain, puis pour un grand prince d'Israël, puis pour un simple potentat de la finance, fort maltraité en dernier lieu. Pour le commun des mortels, elle gardait son voile jusque dans l'intérieur de ses appartements pour ne pas se faner le teint. Et quand on voit aujourd'hui ce visage hideusement couperosé, on redemande le voile. Le Gaulois, 1869.
Elle invectivait les passants le soir. Elle vivait dans son appartement quand elle est déjà place Vendôme. L'entresol, les volets sont fermés, les rideaux sont tirés. Quand on va chez elle, les miroirs sont recouverts de voiles noires. C'est beau, non ?
Il y a un côté Greta Garbo.
Il y a un côté comme ça. Il y a un côté comme ça. C'est-à-dire qu'elle voile, elle voile et en même temps... Vous voyez comme elle est ambiguë et étrange comme personne, puisqu'elle fait ça, et en même temps elle retourne chez Pierson, elle reprend la position devant le miroir, et alors on a les chairs là, qui ne sont plus les chairs d'une femme de 25 ans, mais qui sont les chairs d'une femme, elle n'est pas si vieille que ça, mais enfin elle a 60 ans ou 50, 58 ans, et elle est détruite. Et elle reprend la même position, donc c'est quand même inouï. Parce que quelqu'un qui ne veut pas, même pas se voir, même pas regarder l'affaissement de son visage et de son corps, va l'immortaliser.
Ce qu'on voit, c'est tout l'appareil et le grand train morbide. Hein, et donc, ça donne un effroi qui est encore un peu plus que la mort elle-même. La mort, dans cette représentation que je choisis d'en faire la Castiglione, qu'elle passe commande au photographe, lequel photographe s'exécute, sans doute par amitié, par une profonde compréhension hein, du drame intérieur dans lequel elle est toujours enfermée. Et donc, elle demande au photographe de l'accompagner dans cette ultime déploration qui est, alors non pas encore sa propre mort, mais qui est celle de ses chiens. Et donc, elle construit une nature morte qui mêle à la fois, et on peine à le découvrir hein, dans l'image, on découvre petit à petit... Hein, l'œil et la truffe du chien mort. Je crois qu'ils sont deux, mais on peine à les identifier dans l'image. En tout cas, il y en a un là au centre, très visible, quand on y prête attention, parce qu'il est saisi dans un enfouissement d'objets, dans un reliquaire terrifiant, et qui associe aussi des photos d'elle-même. Hein, des codifichés, des accessoires de son ancienne beauté.
Oui, on voit des éventails, une ombrelle, le collier du chien.
C'est tout à fait, mais bien des années avant, je trouve que c'est une des représentations de ce que Montesquieu, plus tard, quand il aura acquis à la vente du début du siècle, enfin 1901 ou 1903, à Drouot, quand il aura acquis la plupart des objets de la Castiglione, il parlera du boudoir d'outre-tombe.
À la fin, elle était pathétique, mais elle restait fascinante. Elle me faisait venir chez elle pour la photographier au chevet de ses chiens moribonds qu'elle avait couchés dans son lit. Le logement était sale et en désordre. Il y avait partout des papiers griffonnés, des journaux, des étoffes défraîchies et des chalmités. Une des dernières fois où elle est venue à l'atelier, comme toujours, elle a décidé de tout. Elle s'est allongée comme si elle était morte. Ses pieds nus et abîmés posés sur un coussin de velours. et j'ai pris la photographie comme prise de son cercueil, comme si elle tenait elle-même l'appareil pour immortaliser les pieds de son propre cadavre.
Ce qui est formidable, c'est que elle avait espéré, je crois que c'est à l'exposition universelle de 1867, pouvoir montrer les photos d'elle, mais sous son nom, d'être exposante. Donc quand même, l'idée l'avait effleurée qu'elle était une artiste. C'est rarissime à l'époque, avec la photo, qui est en plus un moyen qu'on vient de découvrir, qui n'est pas du tout considéré comme un des beaux-arts. Donc, je sais pas, une sacrée bonne femme, quoi.
Elle va vouloir, pour l'exposition de 1899, avoir une section dans l'exposition consacrée à ses photographies. Mais cette exposition aurait été intitulée « La plus belle femme de son siècle ». Ce sont les dernières années de sa vie où d'ailleurs même elle ne se fait plus photographier. Et elle meurt entre une femme de chambre et un cocher, comme on dit. Et pour son enterrement, elle ne veut pas justement de personne de l'aristocratie, elle veut ce petit peuple qui l'entourait au quotidien.
Ça, c'est magnifique. Ça, je l'ai dans un autre endroit. C'est d'une beauté, regardez ça. Le bal à l'opéra, la plupart des titres ont été donnés par Robert de Montesquieu, qui avait racheté, je crois, 434 photos de la Castiglione. Il était fou de son travail et fou d'elle. Il passait sous les fenêtres de son appartement de la rue Cambon. Et il n'osait même pas entrer.
Quelqu'un lui a dit qu'il fallait absolument qu'il aille la voir parce qu'elle allait mourir. Et en fait, quand il est arrivé, elle était morte, mais le cercueil était ouvert et il a pu voir son visage qu'il a trouvé superbe.
Un, pas de croix. Deux, pas de prêtre. Trois, pas d'église. Quatre, pas de service. Cinq, pas d'exposition. Sept, pas d'éveil. 8. Pas des médecins de mort. 9. Pas des juges de paix français. 10. Pas des commissaires français. 11. Pas des consuls d'Italie. 12. Pas d'ambassadeur d'Italie. 13. Pas d'envoyé spécial. 14. Pas de cachet. 15. Pas d'héritier. 16. Pas d'accompagnateur. 17. Pas de pompe funèbre. 18. Pas de faire-part. 19. Pas de renseignements. 20. Pas de journaux.
Tout ça n'a pas été respecté. Hein. On ne l'a pas mise avec ses chiens. On l'a enterrée dans un cercueil tout à fait ordinaire. Il y a eu une cérémonie à l'église de la Madeleine. Il y avait d'ailleurs très très peu de monde. Et elle est enterrée au Père-Lachaise. Sous une pierre tout à fait modeste, d'ailleurs qui n'est pas très loin de celle de Marcel Proust. Hein. C'est dans le même périmètre et rien du tout, juste comtesse de Castiglione, sa date de naissance, sa date de mort et c'est tout. Le temps retrouvé ou le temps perdu ou la recherche en tout cas du temps perdu de la Castiglione, c'est son œuvre photographique hein, et toutes ces annotations sur les photos, ces béquets peuvent ressembler un peu aux fameuses paperoles de Proust. Hein. Les deux démarches sont assez parallèles.
Ils ont ce lien par Montesquieu finalement.
Ce lien par Montesquieu absolument, puisque Proust était un grand admirateur de Montesquieu.
Ni pays, ni famille, ni amour, ni amitié, ni entourage de service, ni dévouement intime, ni soins, ni affection, ni attachement, ni santé, ni argent, rien que la beauté de la jeunesse, qui n'est plus et qui m'a toujours été fatale.
La comtesse de Castiglione, beauté insolente, et photographe secrète de sa vie. Merci à Nicole Albert, Françoise Elbrun, Nathalie Léger, Marianne Nahon, Marie Robert et Charles-Éloi Vial. Lecture, Monica Fantini, Daniel Königsberg et Renaud Dalmar. Prise de son, Yves Lehors et Thomas Robin. Mixage, Claude Niort. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Lionel Quentin. C'était « Une vie, une œuvre », une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast et commentaires, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et pour continuer, vous pouvez aussi podcaster et écouter nos bonus. Cette semaine, des lectures par Daniel Koenigsberg et une interview inédite. La semaine prochaine, nous serons avec celui qui s'est arraché à l'esclavage pour devenir abolitionniste, Frédéric Douglas.